Le grand témoin.
Bonjour et bon dimanche chez vous, grand témoin. Le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui Monsieur Josué Mukendi. Il est pasteur, acteur politique. Il a été candidat à la présidentielle de 2011. Révérend pasteur Josué Mukendi, c'est un plaisir de vous recevoir dans ce studio des Radio Capi et bienvenue.
Merci, comment Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir invité.
Vous allez bien?
Ça va très bien par la grâce de Dieu.
Ça fait longtemps qu'on n'a plus entendu parler de vous.
Bon, écoutez, vous dites ça fait longtemps, oui, au moins à la radio Capi, oui, mais je me fais toujours entendre depuis la fin des élections en 2011. Tous les deux mois, je passe dans la presse, sur certaines chaînes de télévision qui m'invitent, pour savoir mes analyses sur la situation politique du pays.
Vous êtes venu quoi aujourd'hui, à part le fait que vous soyez pasteur, est-ce que vous êtes toujours actif en politique?
Toujours actif. T'as vu qu'à chaque... Et comme je vous avais dit lors de votre interview pendant la campagne présidentielle, je suis resté dans la sphère politique, puisque on ne vient pas en politique par aventure. Si vous venez en politique par aventure, restez à la maison. Moi, j'étais venu en politique par idéal, selon la volonté de Dieu, pour que je puisse contribuer, n'est-ce pas, à ce que notre pays devienne un pays autre qu'avant.
On va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Vous êtes né à Lubumbashi.
Je suis né à Lubumbashi le 12 février 1950.
Et c'est à Lubumbashi que vous avez fait vos études?
À Lubumbashi, je suis né. Mon père était grand commerçant au Katanga à l'époque. Et après... je crois que c'est à l'âge de 4-5 ans, et il est parti de Lubumbashi, il s'est installé au Kasai, toujours dans le commerce, et c'est là que je fais les études primaires. Et effectivement, à Katanda, dans le territoire de Chilenge, après les études primaires, 6 ans, je suis allé au collège Saint-Pierre, à Bujumai, j'ai terminé les 6 ans, et ensuite je suis passé à l'université Louvagnum. Où j'ai fait la...
Vous êtes venu à Kinshasa pour l'université.
Pour l'université.
Vous avez une licence en sciences économiques, orientation
industrielle.
Très bien. Pourquoi ce choix?
Je vais vous dire une chose. Vous savez, j'ai toujours rêvé à l'époque d'être un grand homme. Un grand homme public, un grand homme dirigeant. Et pour être un bon dirigeant, bien sûr, il y a moyen de faire d'autres options. Mais moi, j'ai choisi l'industriel parce que je savais que j'allais vers l'industrialisation d'un pays qui apporte du travail aux gens. Donc, je voyais déjà dans ma tête que si je vais dans l'orientation industrielle, je serai un bon manager. Et après le bon manager, je pourrais aller vers la direction ou la gestion d'un pays. Donc, j'avais choisi l'économie industrielle.
Ça ne s'est pas encore réalisé?
Ça va se réaliser.
Pasteur Josué Mukendi, votre père était un grand commerçant.
Un grand commerçant.
Ça veut dire que vous avez grandi dans les bonnes conditions.
Ça, je dois vous dire qu'à l'époque, les gens comme mon père, il y en avait d'autres, mais il n'y en avait pas beaucoup. On était dans de bonnes conditions puisque mon père était avec les Juifs, le groupe Simis. C'était le représentant des Simis qui s'appelle Simo Israël. Alors, c'est pour ça d'ailleurs le nom de mon père, c'est Kadima. Kadima, c'est le grand parti juif en Israël. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça, mais enfin, soit. Alors, on a grandi dans de très bonnes conditions. Et à l'époque, les gens qui avaient ce statut-là, on appelait les enfants des évolués. Nous avions des cartes des enfants des évolués. Donc, nous avons grandi, grâce à Dieu, dans de bonnes, très bonnes conditions.
Marié, père de combien d'enfants?
5 enfants.
Et vous êtes devenu pasteur en quelle année?
En 2000.
Pasteur Josué Alex Mukendi Kiamama, votre vie professionnelle se passe en grande partie dans le transport, le secteur de transport maritime et transport multimodal. C'était ça votre rêve d'enfance?
Je rêvais dans mon enfance d'être un homme public. un public man, donc un manager, un homme qui s'affiche, un homme qui emballe, un homme. J'ai rêvé toujours ça. Dieu m'a donné une provision, d'abord de parler, ensuite, etc. Quand on a terminé le royaume, à notre époque, on ne cherchait pas du travail, on venait nous chercher. Mais soit, on m'avait pris comme conseiller au ministère de l'économie, ensuite, on m'avait...
C'était qui le ministre à cette époque?
C'était Nyamwisi. Nyamwisi, à l'époque. Peu après, il y a un ami qui est venu me dire, l'AMISA, l'Agence Maritime Internationale du Zaïre, qui est à côté, qui est un ami, on est en train de chercher des Congolais à former, et pour le commercial. J'ai dit, je vais essayer. Je suis venu à l'AMISA, on a fait des tests, on était à 9. Eh bien, j'étais parmi le premier à être pris. Et je suis entré à l'AMISA, à l'Agence Maritime Internationale du Zaïre. Quand je suis entré là, c'était une société belge.
À l'époque, c'était facile hein, de trouver un emploi.
Très facile. On nous cherchait d'ailleurs. Je dois vous dire, madame, j'étais engagé, pas engagé. J'avais choisi, puisque j'avais quatre places où je devais aller. À la BCZ, Banque Commerciale du Zaïre, à l'UZB, Chanik, à l'économie, où. Mais je suis allé, c'est pas la, je crois que c'était la voie de Dieu. Je suis allé à l'AMISA, j'étais engagé là-bas comme délégué commercial à l'époque, par les Belges. Alors, vous savez, quand vous venez dans les sociétés privées, on vous suit, on voit vos capacités, etc. Ils ont découvert en moi que j'avais la capacité de convaincre, de convaincre. C'est ainsi qu'ils m'ont confié le département marketing. On s'appelait à l'époque Camagnola Marketing. Et dans ce département marketing, je m'occupais des clients à l'import comme à l'export. C'est là que je fais mon nom. Tous les grands commerçants, import-export, le nom de Mukendi était connu dans la ville de Kinshasa et dans le Congo.
Comme vous le souhaitiez d'ailleurs.
Comme je le rêvais et je le souhaitais. Alors, ce qui fait que Damso, les Jusuambombo,
tous les grands commerçants
à l'époque, quand vous l'appelez, il vous dit, ça c'était nos horaires. Bemba Salomo, qui était dans l'export, me disait un jour dans son bureau, Monsieur Mukendi, pourquoi mon fils ne veut pas être comme toi? Il parlait de Jean-Pierre Bemba, qui était à ce moment à l'université en Belgique. Alors je disais à papa Bemba, écoutez, il faut lui donner la chance. Tu comprends? Donc, j'étais à l'AMISA, dans le département commercial, à ce moment-là, vraiment, comme les autres m'appelaient, l'Azora. Je ne dis pas que c'était, je ne dois pas m'en vanter, c'est la grâce de Dieu. Donc, tous les grands commerçants, à l'époque, c'était une autre classe de commerçants, d'hommes d'affaires, les Dokolo, les Sapa, avec Bomboko, et tout ça, ils me connaissaient. Et là, du département commercial, les Belges ont vu que non pareil, il faut l'élever plus haut. Ça, c'est dans leur calcul. Alors, la direction générale en Belgique, à l'Assemblée, ils ont dit, il faut l'appeler, on va le former pour lui confier la représentation maritime de tous les bateaux au Congo. Alors, en 1980, ils m'ont nommé le représentant de tous les armements du monde qui passait au Congo, au Zaïre à l'époque.
Alors, lorsque vous parlez des armements, ça, vous faites allusion aux armes?
Non, l'armement à l'époque, hein, l'origine du bateau, à l'époque, c'était les armes. Appelaient les armes dans les guerres. C'était là que... Mais on appelait ça les compagnies maritimes ou les armements, puisque les compagnies maritimes tirent l'origine dans les navires qui transportaient les armes, c'est ça. Donc, je peux dire le représentant de toutes les grandes compagnies maritimes.
Alors, vous avez occupé cette fonction pendant 5 ans?
Pendant 5 ans. C'est alors que, même pendant ce temps-là, j'ai dû participer comme mon premier acte patriotique, c'est le pont sur le fleuve Matadi. Vous voyez le pont sur le fleuve Matadi? Je représentais un armement...
Vous faites allusion au pont Marshall?
Oui, le pont Marshall. Je représentais la Nippon Yusen Kaisha. Alors, il y avait des problèmes à l'époque pour monter les chaudrons. On en a parlé. Et puis, c'est passé à la présidence de la République. Ils ont consulté l'ambassade du Japon. Ils ont dit, oui, on peut, dans le cadre de la coopération nord-sud, on peut construire le pont sur le fleuve. On a construit le pont. J'étais parmi les acteurs de ce pont. On a construit le pont. Je suis allé au Japon. J'ai organisé du bateau pour transporter tout le matériel de ce pont. C'était mon premier acte sur le plan national. La même chose avec nos amis américains. Je représentais la Far Line et la New York et la...
Vous avez travaillé avec des grandes firmes.
Je travaille avec des grandes firmes. Et je me rappelle toujours, j'ai eu un conseiller d'ambassade l'ambassade des États-Unis, M. Tim Hauser. Tim Hauser qui était attaché politique, qui me disait, M. Mukendi, dans les jours à venir, vous serez un grand homme d'État du Congo. Je ne sais pas si ce monsieur mange. Donc, pendant le temps de la représentation, tous les armements que je représentais, les Français, les Belges, les Américains, même les Sud-Africains, ils étaient très satisfaits. C'est là que j'ai appris la politique. C'est là que j'ai goûté à la politique. Puisque les grandes négociations se font là-bas. Puisque les commerces extérieurs d'un pays passent à 80% par la mer. Okay. Si vous maîtrisez le 80% de la mer, vous maîtrisez la politique, la géopolitique du monde. C'est ce qui m'a donné une autre dimension de la politique.
Pasteur Josué Mukendi, de 90 à 91, vous êtes gérant du terminal container Kinshasa. Et puis en 91, vous êtes nommé directeur commercial de la compagnie maritime du Congo, oui. CMDC en sigle.
Très bien. Quand vous travaillez dans des groupes privés, on ne vous laisse pas dans une même fonction pendant longtemps. On a besoin de vous pour une valeur ajoutée, une plus-value. Ils ont vu que j'avais bien assuré le portefeuille de la représentation maritime. Maintenant, ils avaient un problème avec la gestion du terminal conteneur, qui est une société mixte. Ok ? Il fallait le redresser. C'est ainsi qu'on m'a envoyé là-bas, pour redresser. Et quand je l'ai redressé à la compagnie maritime du Congo, ils avaient besoin d'un cadre pour la direction commerciale. Pourquoi ? À l'époque, la compagnie maritime du Congo était confrontée au problème d'équipement naval. Ils n'avaient pas compris qu'il faut passer au mode d'affrètement. Mais comme moi j'étais formé pendant la représentation dans ce business de bateau, je suis allé pour redresser ou accompagner le redressement de la compagnie maritime du Congo. On m'a confié la direction commerciale. C'était le Belge qui m'avait prêté à la compagnie maritime du Congo. Puisqu'à l'époque, on avait confié le redressement de la compagnie maritime du Congo aux Belges. Et les Belges ont dit, nous avons un Congolais à nous, on va vous le donner. Et c'était
ça. Et c'est comme ça que vous vous êtes retrouvé là-bas.
C'est ainsi que je me suis retrouvé là-bas.
En 97, à l'entrée de l'AVL, Laurent Désiré Kabila fait appel à vous pour gérer, pour vous nommer administrateur, directeur général de la
compagnie maritime du Congo.
Oui. Il avait entendu parler de vous.
Madame, je vais vous dire quelque chose. Je vous ai dit que quand le Seigneur a fait appel à moi ici.
C'est en Afrique du Sud, lorsqu'on avait reçu le coup de fil de madame...
On avait fait des tests au portefeuille. On cherchait. J'avais beaucoup apprécié ce mode de choix. On avait fait des tests pour choisir des ADG. Je m'étais présenté. Quand je m'étais présenté, moi je suis parti. J'avais oublié. Mais c'est au choix. On présentait trois candidats au président, comme c'est. Et on défendait ces trois et lui devrait choisir. Quand on est arrivé au point de la CMDC, on défendait deux candidats, pas moi. Alors le président a dit, mais celui que vous ne défendez pas ici, moi je vais le nommer, mais je dois le voir. Il faut me le chercher, je dois le voir. C'est ainsi que quand Mme Babadoua m'a appelé, qui était ministre des Transports à l'époque, je lui ai dit, madame, tu n'étais pas au courant. Il dit, non, le président reçoit tous les ADG à 11h un lundi. Mais vous, j'ai dit, écoute, madame, je prendrai l'avion à 11h, il me dit, faites-toi. Et quand je suis arrivé ce lundi là-bas, j'ai trouvé que le président avait donné les instructions qu'on me voit au palais de la nation à 3h de l'après-midi. Je suis arrivé au palais de la nation, c'était Mota qui était directeur, et Boshab était à ce moment-là conseiller économique ou politique. Le président m'a reçu. Quand je suis entré dans le bureau du musée, le président, il me dit en anglais, Mr. Mukendi, how are you? I'm fine, thank you, Mr. President, and yourself. Ok, Sida, elle aussi. Je me suis mis. Alors il m'a posé la question. Je ne vous ai pas connu. Je ne vous connais pas. Mais je voudrais vous connaître, puisque j'ai signé le décret sans vous connaître. J'ai fait tout pour vous. Vous connaître. Pourquoi?
Il fallait que je vous voie.
Alors il m'a dit, have a seat. Il dit, thank you, Mr. President. Je me suis mis. Première question, Mr. Mukendi. Je vous ai nommé sans vous connaître. Quelle garantie vous me donnez que vous allez bien gérer? Voici ma réponse. Monsieur le Président, vous aurez le temps de constater. C'est ce qui a frappé le Président. Il me dit, ah, beaucoup étaient assis là-bas. Il me dit, là, était assis la DG de LAC. Je crois que c'était mon candidat, pour ça que je cite les noms. Beaucoup ont dit, je vais faire ça. J'ai dit, Monsieur le Président, sur base de quoi? Non, vous aurez le temps de constater. Et il me répond à ça, il dit, Ukokiri. C'est très malin. Il est en safari, il se met debout. Deuxième question. Combien d'argent voulez-vous que je vous donne pour redresser la compagnie maritime du Congo? Puisque Mobutu a tout détruit, etc., etc. J'ai dit, Monsieur le Président, vous n'avez pas de l'argent. La compagnie maritime du Congo, comme les autres.
Mais vous avez géré aussi à l'époque de Mobutu.
Je vais en arriver. Je n'étais pas numéro un.
J'étais quand même directeur.
J'étais directeur commercial. Et même alors, c'était bon, je vais vous dire. Alors, il a tout détruit, etc. J'ai dit, Monsieur le Président, vous n'avez pas de l'argent. Les compagnies d'État, c'est le portefeuille de l'État. C'est à eux de vous apporter de l'argent pour reconstruire le pays, pour arrêter la guerre. Non, Monsieur le Président. Après 8 mois, moi, je vais vous donner de l'argent pour que vous reconstruisiez le pays, que vous arrêtiez la guerre. Il dit...
Ça l'a touché, cette réponse.
Troisième question. Comme il en est ainsi, à 20h, vous venez manger avec moi au Palais de Marbre. J'ai dit, Monsieur le Président, ce n'était pas sur votre agenda. Vous avez beaucoup de choses à faire. Laisse-moi aller faire un plan de redressement à la compagnie. Je viendrai vous le présenter après le conseil d'administration. À ce moment-là, on peut manger avec un sujet. Ça marquait le président. Et ça l'a retenu jusqu'à avant
sa mort. C'est très malin de votre part.
Jusqu'à avant sa mort.
Intelligente.
Je vous dis, madame, le jour que le président est mort, les gens ne l'ont pas su. Il avait en tête de me nommer le Premier ministre. C'était gardé secret. D'ailleurs, il y a un journal, La Libération, qui est sorti après sa mort. M. Kabila, la recherche d'un oiseau rare. Et mon nom était sorti.
C'était vous, l'oiseau rare?
C'était l'oiseau rare à l'époque. Si vous regardez dans le bureau...
J'imagine que vous avez maudit ce jour-là.
Non, ce n'était pas dans le plan de Dieu.
Parce que vous attendiez cette
domination. Non. Tout ce qui vous arrive, d'obéir à la volonté de Dieu, madame. Vous comprenez? Si vous regardez dans le bureau du musée, sur son bureau, maintenant, quand vous visitez, vous trouverez un bloc-notes marqué SMDC. Je l'avais emporté 4 jours avant sa mort. Soit à chacun son destin. Donc, voilà comment je m'étais retrouvé ADG à la SMDC.
Jusqu'en 2001.
Jusqu'en 2001. Et pendant ce temps, je vous dis, madame, je fais un plan de redressement d'entreprise. Quand vous voulez gérer, que vous venez, il faut d'abord faire l'état des lieux d'une entreprise. Vous connaissez la thérapeutique. Vous voyez ce qu'il faut faire. Vous mettez un plan de redressement. Moi, j'avais mis un plan de redressement à court et moyen terme, de 2 ans et demi, pour rendre la société d'abord productive, crédible et compétitive, pour faire face aux problèmes de la mondialisation. Et pendant les 8 mois, madame, nous étions devenus le premier client du port de Matadi. Les gens se sont étonnés. Même les services de renseignement disent, mais où est-ce que vous avez eu autant d'argent? Il faut créer l'argent. C'est pour ça que même pour gérer des entreprises, l'État ne devrait pas aller sur l'aspect politique des managers. Il doit avoir la banque de données des technocrates qui existent. Il doit se faire aider par le portefeuille du département qui identifie les gens et qui les suit.
Éviter de nommer des gens parce que vous appartenez à la même famille politique.
C'est ça qui tue les entreprises. C'est ça qui tue les entreprises. Je dois dire que mon choix, puisque le président me disait toujours, j'ai 4 dirigeants comme toi, Mr. Mukendi, je serai en paix. J'ai dit, il y a moyen. C'est alors, à ce moment-là, J'ai eu, pendant les 8 mois de gestion à la Compagnie maritime du Congo, vous pouvez vérifier, allez, on vous dira, nous avons eu des PDG, nous avons eu des ADG, mais celui-là, non.
Ça, il était différent.
Il était différent.
Mais aujourd'hui, cette compagnie connaît beaucoup de problèmes.
Hein? Écoutez, à chaque système politique, son système économique.
Et à cette époque-là, la politique active, ça ne vous intéressait pas encore?
Madame, quand vous voulez aller en politique, il faut vous préparer. Passer d'échelon en échelon. J'ai commencé d'abord dans les techniques de négociation à travers le monde. J'ai compris comment les choses se passent dans la géostratégie, dans les grands groupes, les producteurs, les assureurs, les fabricants, les transporteurs, les assureurs. J'ai maîtrisé ça. Ensuite, vous voyez comment ça se négocie, les grands contrats, d'un pays à un pays. Vous apprenez ça. Ensuite, vous passez à la gestion active. Quand vous passez à la gestion active, que ce soit politique, que ce soit, ce sont les mêmes agrégats. Il faut choisir des lieutenants qui sont technocrates, qui ne sont pas trop politiques, mais qui doivent vous amener à la finalité. Vous comprenez? Donc, je me prépare. Quand je suis parti maintenant du poste de ADG, je me dis, gloire à Dieu, mon temps est venu d'entrer en politique. J'ai consulté mon Dieu.
C'était quoi le déclic? C'était quoi que vous aviez poussé à vous décider d'entrer finalement en politique?
C'était mon tandem depuis toujours d'entrer en politique. Mais je m'étais dit, time is not up. Le temps n'est pas encore prêt. J'y entrerai quand le moment serait venu. Alors comme j'ai eu le temps maintenant que je n'étais pas aux affaires de gestion, j'ai dit ok, j'ai tout le bagage possible. J'ai tous les fonds de commerce possibles pour commencer la politique, puisque c'est ça que mon Dieu voulait de moi. Voilà le cheminement. C'est ainsi que, en 2011...
Et depuis 2001 jusqu'en 2011, avant de vous présenter comme candidat président de la République,
oui.
Vous étiez où? À Kinshasa ou vous êtes rentré en Afrique du Sud?
Non, j'étais entre Kinshasa, Afrique du Sud et l'Europe.
Et vous faisiez quoi, vos affaires?
Je vais vous dire une chose. Je suis un fonds de commerce humain, ambulant. Il y a beaucoup de gens qui peuvent investir chez nous. Il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous pour investir et ceci. Je me suis, avec mon fils en Afrique du Sud, consultant sur les grands projets. Alors, à côté, j'avais un cabinet qui travaille sur les conseils en investissement. Et de l'autre côté, je m'occupais de mon ministère de l'apostolat.
Avant de poursuivre notre entretien, pasteur, on va souffler un peu et on se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Thank you. parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui le pasteur Josué Mukendi Kamama. Il est acteur politique congolais et pasteur, comme je l'ai dit, il a été candidat à l'élection présidentielle de 2011. Et en 2011, vous débarquez candidat à président de la République. Certains diraient que c'était une aventure. Vous avez jeté l'argent par la fenêtre.
Je vous dis, quand vous voulez aller en politique, aujourd'hui, vous m'avez reçu comme candidat président, n'est-ce pas? Ex-candidat président. Mais pourquoi est-ce que vous m'appelez ex-candidat? C'est puisque j'avais mis cet argent pour me présenter. J'ai eu ce que je voulais, une valeur ajoutée, un autre label. Puisque maintenant, je suis identifié à travers le monde. Ah, on m'appelle Miss President. How
pour
are
vous
you?
Faire connaître, c'était ça?
Exactement. Je vais vous dire, quand Dieu...
Ah, c'était juste pour vous faire connaître?
Non, je vais en arriver.
C'était pas vraiment pour...
Non. Quand vous voulez vous présenter en politique, moi j'ai dit, je suis venu en politique selon la volonté de Dieu. Quand j'étais enfant, je ne voyais pas la politique comme ça, je voulais un public man. Mais c'est Dieu qui me dit, ton nom c'est Josué. Je m'appelais Alex Mukendi. Ton nom c'est Josué. J'étais dans le nom de Josué puisque j'ai besoin de toi pour le pays. Comme j'avais dit à ta mère. Il n'y a pas que à ma mère qu'on a dit. On avait dit à plusieurs personnes. Il y a un journal que j'avais publié sur comment je suis venu en politique en 2011 comme candidat président. J'avais publié ça pour que les gens ne me prennent pas comme un aventurier. J'ai publié ça. J'ai le même de jour.
Mais beaucoup vous ont pris quand même pour... Excusez-moi le terme, un aventurier.
Très bien, mais j'explique toujours. Quand Dieu choisit quelqu'un, il peut dire, je vous ai choisi, vous êtes président. Mais ce n'est pas le jour-là que vous serez président. Il a fait ça avec David. Saoul était là. C'est comme ça que j'explique. Il dit, je vais vous faire sortir. En 2011, on vous connaîtra comme président. Dans les royaumes de ceux vous êtes président, on vous connaîtra. Mais vous y arriverez par là. Allez-y. C'est un acte de foi. Vous dites que j'ai perdu. Je n'ai pas perdu l'argent. Je suis gestionnaire de l'argent de Dieu. Comme c'est sa volonté, c'est un acte de foi. Eh bien, je me suis présenté. Pour vous prouver, madame, je n'ai pas fait de campagne.
Comme indépendant.
Je ne suis pas du pouvoir. Je ne suis pas de l'opposition.
Vous n'avez pas battu campagne.
Je n'ai pas battu campagne, mais je l'ai fait à ma façon. Pour montrer que, avec ma façon, je serai élu partout. J'étais élu partout. Il y a des gens qui ont battu campagne à Kindu, par exemple.
Vous n'avez pas été élu partout. Il y a de quoi vous n'avez pas eu des voix, monsieur Josué Mukendi.
Non, vous avez cherché.
Oui,
dans chaque province,
ça.
J'ai eu des voix.
Il y a même des gens qui disent que c'est le pouvoir que vous avez utilisé, carrément pour perturber un peu la carte de l'opposition.
Ah ben, bravo. Donc, c'est que je suis un élément de valeur. Combien de gens sont dans le pays? Pourquoi le pouvoir n'a pas utilisé d'autres personnes? On était combien? 11. Que le régime utilise seulement les 11 ou les 7. Mais il n'y en a pas d'autres que le pouvoir pouvait utiliser. Pourquoi seulement ceux-là? C'est qu'ils sont des éléments de valeur. Je croyais que vous allez dire amen, nous ne sommes pas pendant la prédication. Vous comprenez? Je vais dans votre logique. Combien de personnes sont capables aussi comme moi, qui existent, mais qui nous choisissent seulement nous? C'est que nous valons quelque chose. Je vais dans votre logique. Mais ce n'était
mais
pas
c'était
ça.
Pas le cas?
C'était pas le cas. Je n'ai jamais été avec M. Kabila. Je connais son père. Je connais son nom. Mais jamais, même avec ses lieutenants, rien du tout. La seule chose qui m'a été donnée, c'est après les élections. Que j'étais consulté par les services pour dire, qu'en pensez-vous? Je leur ai donné mon point de vue. C'est sûr, le prochain point, peut-être que vous allez parler de ça. C'est pour le dialogue.
Alors, après cet échec aux élections présidentielles de 2011, vous vous êtes retiré un peu?
Je ne peux pas appeler ça échec, hein? J'ai dit toujours que ce n'était pas un échec pour moi. L'échec pour moi, c'est là que j'ai sorti avec le bulletin zéro. Mais avec pas des moyens que les autres ont, être voté partout. Soit votre thèse, que j'ai, ça c'est votre affaire, mais pour moi...
Vous appelez ça quoi, réussite?
Une réussite. Ça
veut
dire
que vous avez réussi à vous faire connaître.
À ce que Dieu m'a dit.
L'objectif principal.
Voilà, on va vous connaître, on verra votre figure, comme j'avais fait avec David, pendant que Saoul était là. Voilà. Donc, j'ai continué à dire, je n'ai pas échoué, j'étais voté partout, Dieu me l'avait dit, vous êtes président, on vous connaîtra. Mais je le fais à la manière de David, vous le verrez. Ça, je peux le reconfirmer encore davantage.
Voilà, après ces élections, vous vous êtes retiré un peu?
Je ne me suis pas retiré, madame. Je n'étais pas venu en politique comme aventure. Je reste en politique. Même si je ne suis pas sorti à la place du président Kabila, mais je reste acteur politique. Qu'est-ce que je fais?
Indépendant.
Indépendant, toujours. Pourquoi je dis indépendant?
Pourquoi vous n'évoluez pas dans un parti politique? Pourquoi vous ne créez pas un parti politique?
Je vais vous dire. À travers le monde, les indépendants sont en train de surprendre.
C'est ça votre stratégie?
Non. Ma stratégie d'être indépendant, c'est quoi? Le pouvoir comme l'opposition, j'explique ça comme ça. Bakotaka Nabwatu et Tondabatuti. Les deux, on ne prend pas. Bazora Vinyasika Koku et Tisana Moulanga Kalaki. Et puis, Bamatela Kapunda va mettre la tête. Le pouvoir, Bamatela Kumbati Bili. Opposition Bili. Non. Je reste indépendant puisque je vais aujourd'hui dans la majorité. Je sais, Nabetu, je sais ce qui se passe. Je ne saurais pas évoluer de la manière dont je le veux, que ce soit dans l'opposition.
Vous avez peur d'être étouffé?
Ce qui se passe dans le pouvoir, près de l'opposition, ne cadre pas avec ma vision. Vous comprenez? Je suis centriste, unitariste, démocrate. Un centriste, c'est quelqu'un qui n'est pas fanatique, mais qui dit ce qui est bon et ce qui est mauvais de tous côtés. Je ne suis pas opportuniste. C'est pour ça que depuis 2001 jusqu'à présent, je fais des analyses politiques de la situation. C'est ça ma contribution. Et dans cette contribution, qu'ils comprennent, qu'ils ne comprennent pas, je continue à le faire. Je peux dire peut-être que mon lobbying n'était pas peut-être approprié, mais je reste visible à chaque événement du pays. J'interviens sur différentes chaînes de télévision.
Est-ce que vous allez vous représenter encore une fois aux prochaines élections?
Ça veut dire que j'étais un aventurier alors. Non. Je vais me présenter aux prochaines élections.
Alors, pasteur Sosvé Mukendi, pasteur, révérend pasteur, d'un côté, de l'autre côté, acteur politique, comment vous arrivez à concilier les deux?
Je peux vous donner la réponse sur base biblique. Si vous êtes chrétienne, si vous n'êtes pas chrétienne, ça peut se concilier. Tout pouvoir vient de Dieu. Dieu donne le pouvoir à qui il veut, qu'il soit politicien, qu'il soit, etc. Vous pouvez trouver un politicien, n'est-ce pas, qui devient pasteur. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Si Dieu l'appelle, c'est la même chose que vous avez un pasteur, selon l'appel, qui devient homme politique. Ça se marie. D'ailleurs, dans la Bible, il y a la réponse avec Zacharie, qui disait, appelez Josué, mettez-lui sur sa tête la couronne, il va administrer, il sera majesté, roi, et de l'autre côté, il sera mon sacrificateur. Donc, ça se marie sans problème. Au contraire, un homme des dieux, vous allez dire, bon, il y a des n'importe quoi, ça, c'est votre problème, mais la dimension spirituelle de l'homme de Dieu lui permet d'éviter certaines choses. Mettons ça de côté, on peut en discuter. Mais la question c'est, comment conciliez-vous les deux? Ça se fait très bien, je serai président de la République, je le ferai toujours.
Et là vous allez obliger tous vos candidats, plutôt tous vos fidèles ou tous vos adeptes à voter pour vous, à être derrière vous?
Non.
On sait comment ça se passe, hein?
Je vais vous dire une chose, madame, je vous dis ici aujourd'hui, les gens doivent le savoir. Au fait, la finalité, ce ne sont pas les élections. La finalité, c'est que, après les élections, celui qu'on aura choisi, qu'il mette en place les institutions juridiques, administratives, financières, stables, capables de donner du travail et la paix sociale à la collectivité nationale. De créer des emplois, c'est ce qui compte.
Je rappelle à tous les auditeurs qui viennent de nous prendre en cours que nous recevons dans ce studio le révérend pasteur Josué Mukendi, qui est pasteur, acteur politique. Il a été candidat à la présidentielle de 2011. Parlons actualité, pasteur Josué Mukendi. Tout le monde parle du dialogue aujourd'hui. Y aura-t-il dialogue ou pas? Certains sont pour, d'autres sont contre. Quelle est votre position par rapport à ça?
Je suis très à l'aise pour répondre à cette question, madame. Je vous ai dit, en tant qu'homme de Dieu, à la fin des élections de 2011, les choses se sont passées comme ça s'est passé. Je ne me suis pas levé à dire, donc, comme on va contester, non. En tant qu'analyste politique, je me suis fait recevoir par M. Mwando. J'ai dit, je ne viens pas, vieux, pour m'identifier de la majorité. Non, je viens qu'en tant qu'acteur politique, indépendant et homme de Dieu. Dire que, avec ce qui s'est passé, nous allons aller vers la contestation de la légitimité et des institutions et des animateurs. La seule solution pour moi, c'est qu'on fasse un dialogue avec les 11 candidats. Qu'on trouve un compromis.
Ça, c'était votre proposition après les résultats
de 2011. Le dialogue. Pour ce contexte-là. Puis je savais qu'on allait contester et les animateurs et les institutions. Nous allons aller dans les désordres. En tant qu'homme des dieux, j'ai dit non, je vais proposer à la manière de Salomon. Vous comprenez? J'ai dit ça. J'ai même donné les documents. Donné ça au chef de l'État. Voici comment nous devons le faire. Il le faisait à ce moment-là. On n'aurait eu ni la contestation, on aurait eu la gouvernance apaisée. Ça n'a pas été compris. Dommage. Je me suis fait recevoir par les services. Au top, j'expliquais ça. Dites au chef de l'État. Voici ce qu'il doit faire. Les 11 candidats représentent toute la collectivité nationale. Puisque chaque électeur était derrière son candidat préféré. S'il réunit les 11, vous avez toute la collectivité nationale. Voilà comment nous devons faire.
Là non plus, vous n'avez pas été compris.
Je n'ai pas été compris. Et j'ai dit au service, vous ne voulez pas le dialogue, vous finirez par le dialogue. À ce moment-là, le contexte politique sera différent. Vous aurez des problèmes. N'oubliez pas que le peuple à travers le monde a retenu la leçon du printemps arabe. Pour faire quoi? Obtenir ce qu'ils veulent comment? Faire bouger, faire changer ou faire partir. Mais je ne veux pas que ça vienne chez nous. Puisque nous avons encore la jeune démocratie. Dites ça au chef de l'État. Dommage. Ça n'a pas été fait. Je ne me suis pas arrêté là-bas, madame. Nous arrivons en 2013. 2013, avec l'accord de Lusaka, d'Addis Abeba. J'ai dit très bien, gloire à Dieu, ce que je voulais, vient de mieux. J'ai dit ceci. Sur le plateau de la RTNC 2. C'est bien qu'on ait des concertations, comme le président le veut. Mais le contexte a changé. Il a raté le premier coup. La meilleure façon de le faire, de ces concertations, c'est quoi? C'est inclusif, c'est bon. Mais il n'aura pas l'inclusivité, puisqu'il y aura l'exclusion de certains acteurs politiques.
Est-ce que vous avez pris part à cette concertation?
Je vais vous dire, madame. Je suis allé. J'ai dit que je peux ne pas assister. Si vous m'appelez, je suis là, voici mes coordonnées, je viendrai y participer, puisque je vais le dialogue. Je n'ai pas été invité. Qu'à cela ne tienne. Mais je ne me suis pas tué là-bas. Je suis passé à la télévision pour le dire. Très bien. Ce que le chef de l'État va faire, c'est bon. Mais il aura un problème. Puisqu'il cherche quoi? La cohésion nationale. Pour avoir la cohésion nationale, il faut qu'il ait l'adhésion. Ou une certaine adhésion. S'il n'a pas l'adhésion, la cohésion est vide. J'expliquais ça sur la RTNC2.
Bon,
voici les conséquences. C'est très important ce que j'ai dit. Voici les conséquences. Le gouvernement de cohésion nationale qui veut va traîner. Puis ça sera difficile, puisqu'on n'aura pas l'adhésion. Ça n'a pas traîné, madame. Ça a pris du temps. Je ne me suis pas arrêté là-bas. Ils m'ont posé la question sur d'autres plateaux. Je crois que c'était le sang ou malade. Qu'est-ce que vous proposez à ce moment-là? Je vois ce que le chef d'État doit faire et devrait faire. Je connais sa capacité de transcendance. Ce qu'il doit faire. Il a les résultats des concertations ou les conclusions qu'il appelle les autres acteurs qui n'étaient pas là mais qui peuvent faire problème, dont les 11
candidats.
Les 11 candidats. Il peut même ajouter
les 10 candidats.
Les 10 candidats. Même ceux de 2006 qui les invitent. Voici les conclusions. Voici. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que nous devons faire? Il avait fait à ce moment-là, il aurait reçu une certaine adhésion. Ça n'a pas été compris. J'ai dit, ok, si vous y allez comme par défi, mais le peuple va vous surprendre un jour. Soit, le contexte a changé. Est-ce qu'il faudra-t-il le dialogue maintenant? Je crois que c'est votre question.
Oui.
Le contexte a changé. Le dialogue qui est fait ici maintenant, c'est comme on avait fait à l'époque quand il y a eu la conférence nationale souveraine. D'un côté, le pouvoir, de l'autre côté, l'opposition représentée par deux personnes. C'est mauvais. On ne doit pas faire le dialogue en termes de M. Kabila, de M. Tshisekedi, de M. Mukendi. Non, pas en termes d'un calcul politique. On fait les dialogues politiques pour avancer, n'est-ce pas? Pour que nous ayons l'apaisement et la préparation des élections apaisées avec des questions qui posent problème, n'est-ce pas? Je parlais sur ce dialogue il y a un mois, en donnant le schéma que j'ai encore. Je vais le faire.
C'est pas votre schéma.
Dans les prochains jours, Vous voulez que je vous donne le chemin, organisez une autre émission. Je viendrai vous donner le chemin qu'il faut.
Juste brièvement, ça m'a une idée sur ce que vous proposez.
Je vais vous dire une chose. Qu'est-ce que nous voulons? Nous avons une même base commune. C'est la loi fondamentale, qui est la Constitution. Que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition, que ce soit même le peuple. Parce que c'est le peuple qui a voté la Constitution. N'est-ce pas? Il y a les échéances de 2016. Ok? Bien. Quelles sont les questions qui causent problème? Le financement. Est-ce qu'il est prêt?
Mais c'est tout ça. Toutes ces questions seront abordées lors du dialogue.
Selon le chef de l'État. Mais avant d'en arriver, on devait faire une petite table ronde avec un petit nombre des acteurs politiques en disant, voici ce que nous allons parler au dialogue. Il y a deux choses ou trois choses précises. La concession, nous la respectons? Oui. Le délai de notre concession, nous allons examiner pour voir comment nous allons le faire. Les moyens? Oui. Si ces trois choses sont mises sur table dans une table ronde, c'est ça que nous allons parler. Le dialogue peut se faire. Sinon, il y aura toujours des suspicions puisque les gens voient derrière ce qui se passe comme une machination. Avec cette suspicion, les délais risquent d'être épuisés. Et où est la place? Est-ce que vous me comprenez bien?
Mais lorsque le chef de l'État dit, par exemple, les questions qui seront traitées dans ce dialogue vont porter sur le processus électoral, est-ce que ça ne rassure pas?
Ça ne rassure pas, madame. Le chef de l'État a été gardé longtemps dans un tour d'ivoire. Il n'a regardé que les conseillers, il n'a regardé que tous ceux qui affairistes, mais il ne voit pas au-delà le peuple. Ça, c'est mauvais. C'est le peuple qui lui a donné le pouvoir. Pour l'instant, le peuple ne sait pas où est-ce qu'on l'amène. Ça, je dois vous dire. Le peuple ne sait pas où on l'amène. Et, à l'époque de Mobutu, pour éviter ce genre de choses, on était arrivé à la conférence nationale souveraine, où tout le monde devait s'éplier aux conclusions. Malheureusement, ça n'avait pas abouti. C'est vers ce chemin-là que je vais proposer, pas de la même manière, mais autrement, dans une petite table ronde. J'en reviendrai.
Alors, on attend ce schéma, révérend pasteur Josué Mukendi. C'est la fin de cet entretien avec vous. J'espère qu'on vous aura dans d'autres émissions sur Radio Okapi. Un dernier mot à dire à tous ces auditeurs qui nous suivent.
Tous les auditeurs, lors de l'anniversaire de l'indépendance cette année, j'avais fait un message sur Facebook à toute la collectivité nationale, au pouvoir, à l'opposition, à l'église, au peuple, aux indépendants, en leur disant, notre pays, c'est un pays, selon Dieu, un pays des promesses. Il faut la paix. C'est qu'il nous faut se dérassembler, n'est-ce pas, nos diversités, pour que le peuple puisse vivre en paix, n'est-ce pas? La seule chose qu'il faut, c'est que nous ayons tous la bonne conscience, l'amour du pays et l'amour du peuple. On va dire que c'est déjà entendu. C'est bien. Mais j'ai un chemin très simple à proposer. Pour tout le monde, que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition, que ce soit l'église, que ce soit le peuple, à la manière de Salomon, pour avancer. Et je crois que si tout le monde, vraiment grâce à Dieu, faisait foi à ce chemin, nous en sortirons. J'ai prié pour ça. Voilà tout ce que je t'ai dit.
Merci beaucoup, pasteur, révérend pasteur Josué Mukendi.
Merci madame, que mon Dieu vous bénisse. À bientôt.
Amen. Là, je dis amen. Grandement, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais le révérend pasteur Josué Mukendi. Il est pasteur en politique congolais. Il a été candidat à l'élection présidentielle de 2011. Merci à Jean-Claude Siala qui était à la prise de son au micro qu'il écoutait. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.